vos bottes de pluie et abritez-vous sous votre tente de place. C'est l'heure de Radio Camping Paris.
Dans le camping, les soirées du lundi sont dignes de celles d'un samedi soir.
C'est à la France que fut confiée l'organisation du 10e rallye international de camping.
La zone la plus touchée, c'est celle du camping.
Radio Camping Paris.
C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus au Camping Paris. Ce soir, je me mets en grève de l'édito, en lutte contre l'intro, en rébellion contre les textes d'ouverture. Ce monde est tellement con que je n'ai même plus envie d'en parler. Plutôt que d'essayer de trouver une info vaguement intéressante dans un torchon ou sa version numérique du mois de juillet, je vous propose qu'on se défoule tous un bon coup. Tentons une expérience collaborative, chers auditeurs. À mon top, prenez une grande inspiration. Et criez le plus fort possible pendant au moins 20 secondes. On va baisser les micros, Antoine, s'il te plaît. Allez, 1, 2, 3, top. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça détend. Maintenant qu'on est détendu, on peut commencer cette émission. J'ai plus de voix, mais c'est pas grave. Ce soir, nous partirons à la découverte de la culture du Maghreb et du Moyen-Orient avec notre invitée, Hajar Chokaïré, chef de projet pour Honorient Tour et rédactrice pour Honorient. Bonsoir, Hajar.
Bonsoir.
Ça va, t'as encore ta voix, toi ?
Ça va. Je sais crier un peu moins fort exprès.
C'est bien, merci beaucoup. Guillaume, quand il arrivera, nous emmènera dans les contrées lointaines de son imagination, dans un monde utopique où les hommes politiques aurait une éthique bizarre.
Ça existe.
Et bah apparemment oui, enfin dans sa tête seulement. Nous rejoindrons Loïc qui est à Amsterdam, qui lui n'a plus de morale. Mais on va faire une première escale en Avignon avec Christine, notre camarade de pieds détachés, qui a écumé les salles du plus célèbre festival français de théâtre.
Radio Camping Paris.
Alors bonsoir, Christine, bonsoir, c'était bien Avignon?
Oh oui, c'était bien, c'est toujours très intense, donc du coup j'essaye de ne pas y aller trop longtemps parce qu'après on revient très fatigué.
Oui, parce qu'on boit beaucoup de rosé sur la place
exactement.
Des Corsins, tout ça.
Voilà. Exactement, mais je vois que tu es renseignée, c'est magnifique. Oui, oui donc c'était la 69e édition de ce festival d'Avignon qui s'est achevé ce week-end et qui, pour rappel, comprend une programmation in, désormais sous la houlette de Olivier Py depuis 2 ans, et une programmation off qui propose pas moins de 1336 spectacles pour la mouture 2015. Autant dire qu'effectivement, ça peut fatiguer.
Mais quand même, oui.
Le tout est réparti sur 3 semaines. Alors, Avignon, c'est aussi des affiches accrochées sur le moindre centimètre carré de mur des lieux, comme tu le disais, aux délicieux noms tels le Jardin de la Vierge, la Place des Corsins, des parades de comédiens dans les rues qui haranguent de manière plus ou moins heureuse le chaland pour remplir leur salle, la canicule et bien sûr l'incontournable Pacalo, le sirop de citron dont le marché est jalousement gardé dans un périmètre très restreint du Vaucluse. Il y a les spectacles aussi, donc face à de si grandes sollicitations, c'est pas toujours évident pour le spectateur de s'y retrouver. Alors avec ma collègue Magali Capone-Lucchesi de l'émission Pièces détachées, on vous propose cette semaine les chroniques des spectacles qui ont retenu notre attention. Je vais commencer aujourd'hui par ma sélection dans le off. Donc deux spectacles, La convivialité de Arnaud Hout, Jérôme Piron, Arnaud Pirot et Kevin Matagne. Et l'autre pièce, c'est Marx et Jenny de Audrey Vernon. La petite histoire est celle-ci. J'ai débarqué un dimanche soir à 22h en gare d'Avignon TGV et il n'y avait plus de navette pour aller dans les remparts de la cité papale. Donc je suis allée faire du stop sur le parking de la gare et j'ai été recueillie par de très sympathiques Belges de la compagnie Chantal et Bernadette.
Ils sont bien les Belges. Hein.
Très sympathiques.
Tout
et pas de hasard dans l'existence, j'ai promis d'aller voir leurs pièces en échange de mon covoiturage express.
Et ça
je
peut être dangereux.
Je ne suis pas déçue. Ah non, 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 je l'ai bien senti dès le début. Ah, j'ai senti que j'étais vraiment bien tombée. Et la pièce s'appelle La convivialité, qui est un véritable coup de cœur. Donc c'est 8 représentations de 25 minutes par jour pour une jauge extrêmement réduite d'une dizaine de spectateurs. On a 2 comédiens, Jérôme Piron et Kevin Matagne, qui nous ouvrent la porte du 40 Avenue Thiers, se présentent à nous et nous proposent de nous asseoir autour d'une table, en toute convivialité bien sûr. On nous demande ce qu'on souhaite boire. Bon, bah, pour ma part, ce fut du rosé. Hein.
On est en Avignon quand même.
Exactement. Et donc c'est une pièce qui joue sur un effet de réel. Une proposition pleine d'humour qui se veut une dissection autour de la langue française, de son orthographe et de sa grammaire, ou plus précisément une mise en perspective des aberrations de ses règles et du dogme qu'elle suppose. Ce faisant, bien sûr, aussi un questionnement social plus profond qui se dessine en creux. Nos hôtes ont soi-disant reconstitué l'appartement dans lequel tout a commencé. Un soir, un dîner entre amis au sujet d'un des leurs qui avait ou a toujours d'ailleurs, une orthographe déplorable. On nous demande donc notre niveau d'orthographe. Je ne sais pas autour de cette table ce que ça donne.
Très très bon le mien.
Orthographe, avec deux F au bout, c'est ça?
C'est exactement ça.
Voilà, je le savais.
Et voilà. Et également, suite à cette première question, de quelle manière nous jugeons ceux qui sont démunis d'une bonne orthographe? Puisque bien sûr, maîtrise de la langue française égale marqueur social par excellence. Mais pour les plus mauvais d'entre nous, il y a une option qui serait de partir à Istanbul, puisque savez-vous qu'en turc, chaque mot s'écrit selon sa sonorité. Ainsi, pour accompagner les conviviales saucisses S-O-S-I-S qui nous étaient présentées, on peut les agrémenter de mayonnaise, M-A-Y-O-N-E-Z, tout simplement.
C'est plus pratique
comme ça, évite, voilà, les fautes d'orthographe. Et les deux comédiens sont dans un jeu de ricochet et nous fournissent en anecdotes qu'ils illustrent savamment avec des objets divers. Ici, un vinyle des Pink Floyd, vous savez, ce vinyle noir avec le triangle arc-en-ciel, qui est revisité en piste étymologique sur son verso. Là, on a des sous-bocs qui relatent les règles d'accord du participe passé telles qu'elles ont été mises en place à l'époque des moines copistes et qui racontent l'histoire de Jésus qui se lave les pieds. On apprend, on se questionne et c'est ludique. Le savoir ne devrait pas venir aux jeunes filles et aux jeunes hommes autrement, pour paraphraser l'auteur Howard Barker. Alors forcément, le modèle pédagogique du Barker, du « c'est comme ça et pose pas de questions », qui ne répond jamais « bonsoir ».
Qui est dans le studio,
comme ça, enfin.
Ses lunettes de soleil, son maillot de bain, bienvenue.
Bonsoir, votre niveau d'orthographe.
Alors, écris orthographe sur la page qui est juste devant toi.
Pour qu'on vérifie.
On va faire une dictée tout à l'heure.
Parfait.
Et bien voilà, le spectacle est pour toi. Donc, la question du pourquoi de l'élève qui dit mais pourquoi on écrit comme ça et on lui dit jamais pourquoi il doit écrire comme ça. On lui dit tu fais comme ça avec un X à hipou, joue. Pou, caillou, genou et autres. Et bref, donc ce modèle pédagogique en prend pour son grade. Et de fait, en moins d'une demi-heure, l'affaire est pliée. On n'est plus trop sûr qu'on méprisera encore le prochain qui nous envoie un « ça va », S-A-V-A, par SMS. Donc, pour ma part, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être devin pour savoir que ce spectacle va connaître une très belle existence et que la compagnie a trouvé là un point de départ puissant à une suite d'accords avec son futur public, dont elle aura elle-même fixé les règles avec malice et intelligence. Un spectacle donc que vous pouvez découvrir à Paris, enfin en France, en Ile-de-France, au théâtre Paul-Éluard de Choisy-le-Roi, les 31 mars et 1er avril 2016 pour les premières dates annoncées.
Mmh. On ira.
Voilà. Il y a quelque chose qui me chatouille là-dedans, c'est qu'en fait, tous les spectateurs sont autour d'une table,
ouais,
c'est ça que tu
voilà,
disais au début.
Exactement comme
donc
si on était là.
C'est pas une scène en fait.
Non, voilà. C'est, on nous fait rentrer, on nous ouvre la porte, il y a une grande table avec des petites saucisses orthographiées comme je le disais, des carafes de blanc, de rouge, de rosé, de l'eau, on nous demande. L'idée, c'est vraiment de nous convier à cette table et c'est un spectacle qui est appelé spectacle conversation. Et de temps en temps, on peut nous poser des questions sur l'orthographe, mais bon, quand même, ils tiennent leur trame. Voilà. Et c'est un spectacle aussi très intéressant dans le sens où il peut être joué à peu près n'importe où, en appartement, je crois d'ailleurs.
Il a besoin d'une grande salle.
C'est prévu. Donc ça, c'était mon premier coup de cœur, le second dans une veine sociale également, de manière tout autre. Il s'agit de Max et Jenny, qui est une proposition de et par Audrey Vernon. Cette jeune femme qui n'en est pas à son premier essai de seule en scène teintée de politique, puisqu'elle est déjà l'auteur de « Comment épouser un milliardaire » et qu'elle n'hésite pas à présenter ses pièces dans des usines en grève, fait qui mérite largement d'être souligné par ces temps hypocrites, n'est-ce pas? Alors, dans Max et Jenny, Audrey Vernon nous présente et interprète une série de personnages qui sont Karl Marx, sa femme Jenny, la bonne Hélène de Muth, dite Lenschen, et leur ami fidèle Friedrich Engels. Donc tous de près de loin autour de cette table, on connaît, on a entendu parler de ce théoricien de la lutte des classes,
bien
auteur
sûr,
du Capital, mais on n'est par contre pas très familier avec son histoire privée. Et c'est justement tout l'enjeu de cette pièce que de faire résonner cette histoire personnelle et sa pensée philosophique, qui d'ailleurs parfois font hiatus, comme on le découvre. Il est souvent dit que derrière chaque grand homme se trouve une grande femme. Et bien dans le cas de Marx, il y a bien une femme, Jenny, mais aussi une autre femme qui est la mère de son enfant illégitime, la charbonne Hélène de Muth. Et contribution essentielle, tant intellectuellement que financièrement, et même plus son corps, je dirais, de Friedrich Engels.
Ça devient compliqué, là.
Mais non, non, c'est assez simple, c'est inconnuant.
Ils sont quatre.
Mais bon. De temps en temps, ils couchent ensemble.
Ça permet de gagner de l'argent, voilà. Comme on peut.
Exactement. Et ces trois personnes sans qui ce cher Karl n'aurait probablement pas produit la même œuvre.
Surtout.
On est sur la petite scène, enfin nous pas, mais Audrey Vernon y est, sur la petite scène du théâtre Pandora. Et elle nous livre le résultat de ses recherches biographiques qu'elle entremêle allègrement d'extraits de correspondances, de commentaires contemporains et d'anecdotes plus personnelles la concernant. Ce qui donne donc un joyeux mélange documenté, enlevé et piquant. Sans effet de mise en scène pompier aucun, elle est là dans sa belle robe rouge comme la Révolution, en adresse directe, et elle joue à nous jouer leur histoire en utilisant quelques accessoires vestimentaires pour qu'on comprenne mieux qui parle, justement, qu'on ne soit pas perdu. Et elle travestit un peu sa voix aussi pour qu'on suive ses différents protagonistes. Et elle a un tel plaisir... à nous donner, et donc un plaisir qu'on reçoit, qu'on partage, un plaisir de la curiosité du privé, des drames, en veux-tu, en voilà, car Marx a vécu dans une très grande pauvreté, il a perdu un certain nombre d'enfants en cours de route, et également plaisir de baigner dans son cheminement intellectuel long, fastidieux, oui. Qui mena notamment au capital. Dernière chose, moi, ce que je trouve aussi très intéressant dans cette proposition, c'est qu'elle ait eu la chance de pouvoir la jouer plus d'une centaine de fois, qu'elle la connaît par cœur, qu'elle en connaît tous les ressorts, et que ça lui donne une vraie liberté de jeu qui malheureusement peut pas être toujours le cas sur des productions moindres. Et voilà, donc du coup je voulais souligner ça aussi à bon entendeur, comme on dit. Prochaine date de ce Max show dans toute la France, Venelle dans les Bouches-du-Rhône le 16 octobre à la salle des fêtes à Lausanne en Suisse chez les riches, les 20 et 21 novembre 2015 au Lido de Lausanne, de Villers-Rouen dans les Alpes-Maritimes le 31 mars au Centre culturel Voltaire, encore un grand monsieur, et Château-Renard dans les Bouches-du-Rhône également le 28 mai 2016 au Théâtre de l'Étoile.
Et donc pas de passage en Île-de-France.
Ah bah, elle a déjà pas mal passé en Île-de-France, d'accord. Mais peut-être reviendra-t-elle.
On espère.
Voilà, si on ira, pour on aujourd'hui.
Et merci beaucoup Christine, on te retrouve dans la semaine.
Dans la semaine, horaire encore à déterminer.
D'accord, super. Et bien on fait une petite pause musicale le temps que Christine s'en aille, qu'on accueille dignement Guillaume, et puis on continue cette émission.
Dignement.
Time Inflation, comme on dit chez nous, il est 19h16 sur Radio Campus Paris.
Radio Camping Paris. C'est tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h sur le 93.9.
Mais j'ai pas non plus envie de faire des efforts pour parler anglais ce soir, ça m'ennuie.
Sans blague.
Zor, on ne fait aucun effort, on a décidé. On est donc toujours sur Radio Camping Paris avec notre invité qu'on n'a toujours pas entendu, Ajar Chokairi. Bonsoir Ajar.
Bonsoir.
Tout va bien ?
Ça va, très bien.
Bon, super. Ajar qui est donc chef de projet pour Honorient Tour. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ce qu'est Honorient Tour de manière très générale ?
Alors, Honorient Tour, concrètement, c'est un voyage initiatique. Enfin, ça vient de l'origine du mot arabe rihla, qui est un voyage qui était entrepris par des explorateurs pendant plus de 1000 ans. Et en fait, le but, c'est... On a repris ce concept pour l'utiliser dans le cadre artistique, pour aller à la rencontre des artistes du monde arabe qui sont porteurs d'une nouvelle vision de leur société. Et c'est, donc ça va s'effectuer de septembre à janvier, en passant par Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Liban, Qatar et Émirats. Et donc le but, c'est justement changer un peu l'image qu'on fait du monde arabe à travers justement les artistes et les lieux un peu alternatifs qui existent dans le monde arabe.
Donc Honorient Tour, c'est un peu le bébé de Honorient, qui est un site internet qui défend aussi la culture arabe, dont tu es rédactrice depuis apparemment
deux ans et demi,
c'est ça. Ça fait quelques temps en tout cas. Et cofondatrice, oui. D'accord. Je n'avais pas toutes les informations, c'est mal, j'ai pas bien fait mon travail. comment vous avez décidé à partir d'Honorient de créer Honorient Tour, et quelle est la valeur ajoutée de cet Honorient Tour par rapport à un site comme Honorient?
Alors en fait, donc, Honorient Tour est né à cause de deux raisons. La première, c'est que le contexte médiatique actuel de la guerre qui est déclarée à la culture par les terroristes, dont on voit des images de destruction partout en Irak, en Tunisie, etc., nous a donné envie d'être acteur et pas spectateur de ce qui se passe. Donc ça, c'est ce qu'on fait déjà via Honorient, mais il y a un contexte médiatique actuel qui est particulièrement prenant. Et d'autre part, le fait que les rédacteurs sont pas mal issus de la diaspora finalement, donc ils bougent et ils ont peut-être moins la vision locale. Ils ont perdu cette vision locale et donc on voulait aller sur place pour aller à la source de la création finalement et s'intéresser aux nouvelles mouvances qu'on ne capte pas forcément derrière notre écran en fait.
Donc le but, c'est de ne pas parler en tant que Parisien qui voit finalement d'un œil un peu lointain ce qui se passe au Maroc, en Algérie, même si vous êtes tous effectivement issus de l'immigration, comme on dit, mais de se déplacer et donc découvrir aussi, j'imagine, de nouvelles cultures, puisque toi, si j'ai bien lu, tu es marocaine, enfin d'origine marocaine, mais tu vas donc aller te balader aussi en Égypte, au Liban, où effectivement les cultures sont pas forcément la même que celles que toi tu as connues ou celles que tes parents t'ont transmises.
Exactement, c'est le but, c'est vraiment de ressourcer notre vivier de création artistique, parce qu'on veut se reconnecter au local et en même temps, vu qu'on a en fait une thématique d'investigation, je veux dire, globale, ça me permet de comparer un peu ce qui se passe dans chacun des pays et avoir une espèce d'état des lieux de la création artistique dans le monde arabe de manière globale, à partir de l'échantillon des pays dans lesquels on va.
Oui, bien sûr.
Et voilà. Donc effectivement, moi aussi, je suis là pour découvrir des choses et pour les communiquer. Donc c'est un peu...
Est-ce que l'accent est mis sur la jeunesse, chez les jeunes artistes plutôt quand même, l'idée de montrer un peu les cultures émergentes des pays arabes et dont la culture urbaine qui est très défendue aussi bien sûr dans les pays occidentaux, en France notamment, il y a beaucoup de choses sur la culture urbaine, des expositions, etc. C'est quelque chose qui est peu mis en avant dans les pays arabes, du monde arabe et du Moyen-Orient.
Oui, effectivement, le constat un peu paradoxal, c'est que j'ai l'impression qu'en France, il commence à y avoir pas mal d'intérêt pour cette scène alternative, et paradoxalement plus que dans les pays concernés. Enfin, après, tout est relatif, mais effectivement, là, en ce moment, ce qui polarise les médias arabes, c'est un peu la culture un peu pop, très vendeuse, mais pas alternative, pas jeune. Donc il y a vraiment, faut réactualiser un peu ce qu'on montre. Et c'est un challenge en fait des deux côtés finalement de la Méditerranée, donc c'est ça qui est intéressant.
Comment vous allez les chercher, vous, ces artistes ? Est-ce que vous les connaissez déjà, ou est-ce que vous débarquez dans une ville et puis vous allez à la rencontre des habitants en leur disant, est-ce que vous connaissez des petits groupes locaux, des gens qui fonctionnent un peu, qui font des petites scènes ? Comment on les trouve, tous ces artistes qu'on défend ?
En fait, c'est une très bonne question, parce que si on les connaissait déjà tous, ça ne justifierait même pas d'aller sur place. Finalement,
bien
on
sûr.
Pourrait juste faire un Skype et parler d'eux. Oui. Donc en fait, c'est avec les moyens d'aujourd'hui. aujourd'hui c'est plus simple. Mais en fait, donc ce qu'il y a, c'est qu'on a des rédacteurs dans chacun des pays, des rédacteurs en Orient qu'on a connus par réseau, etc., qui finalement ont un peu cette vision locale et qu'on leur a demandé d'essayer de bouche à oreille, d'avoir leur contact sur place. Et ensuite, on a accumulé un peu tous ces contacts consolidés. Et selon la thématique qui sera choisie, on va faire une sélection plus précise. Et donc, voilà, on a essayé de... le bouche à oreille, le réseau social finalement. Il y a beaucoup d'artistes qu'on a contactés via Facebook parce qu'ils n'ont pas encore de visibilité, qu'il n'y a pas une page, un site, qu'il n'y a encore rien. Et c'est ça le challenge aussi pour nous finalement.
Alban.
Et donc concrètement, en fait, vous allez vous rendre sur place alors, rencontrer ces différents artistes physiquement à travers tous ces pays-là, ça va prendre combien de temps ça?
Alors c'est sur 5 mois et demi justement pour se laisser le temps de faire une vraie immersion en fait dans les scènes culturelles actuelles. Et oui, on va les rencontrer, on va consacrer des reportages photos et vidéos, et aussi on aura un reportage off tout au long du voyage. Ça c'est si on arrive au montant de crowdfunding, parce que voilà, enfin il y a une, c'est soit des carnets de voyage numériques avec des reportages, soit voir les choses en grand et faire vraiment un reportage. Donc on attend de voir.
Vous êtes combien dans cette équipe-là, a priori, enfin en tout cas si le projet peut être sur la rail, voilà, idéalement ça serait une équipe de quoi, vous serez 4-5 à faire ce tour-là?
Oui, exactement, on est 4 en fait.
On peut dire les noms hein, peut-être des personnes qui participent à ce projet. Alors si je les retrouve, j'ai beaucoup de voilà. Rita Sheila, tu me corriges hein, si jamais.
Parfait.
Oumaïma Ajaray, c'est
exactement,
ça. Et Mehdi Drissi, et donc toi, Ajar Choukaïri. Comment vous avez commencé à travailler ensemble? Parce que vous venez tous de filières différentes. On a, donc toi, tu es en philosophie. On a Rita qui est en géoéconomie. Oumaïma en histoire du cinéma et HEC. Et Mehdi qui vient de marketing digital. Vous êtes rencontrés grâce à Honorient
Très éclectique, effectivement. Ouais. En fait, alors Oumaïma et moi, on est ensemble à HEC. En fait, moi, j'ai fait une licence de philosophie en parallèle.
D'accord.
Donc, on s'est rencontrés sur le campus. Rita, on s'est rencontrés justement pendant une interview d'un artiste. Enfin, un artiste qu'on va peut-être écouter tout à l'heure, Bachar Khalifa. Et on a sympathisé, on est devenus très amis. Pareil avec Mehdi. En fait, c'est vraiment la blogosphère du monde arabe qui se rencontre. Et finalement, c'est un petit cercle. Au final, on se rend compte que voilà, c'est des gens qui se connaissent tous. Et après, ce qui est intéressant, c'est que chacun a des spécialités, c'est un peu pédant, mais chacun a des intérêts culturels qu'il utilise en fait, et finalement on ramène chacun notre pierre à l'édifice de Donorient. Nous, notre formation de business nous permet peut-être voilà, d'être plus dans les partenariats, etc., qu'on nous. La philosophie, moi, ça donne aussi un regard différent peut-être quand j'écris. Rita, géoéconomie, Oumaïma, l'histoire de l'art. Mehdi, c'est lui qui prend des photos. Il a eu en fait un prix donc, qui s'appelle le Golden Blog Awards, catégorie photo, parce que voilà, c'est ce qu'il aime faire. C'est lui aussi qui filmera. D'accord. Donc chacun, voilà, c'est un peu collaboratif et chacun...
apporte sa pierre à l'édifice. C'est bien ça. Comment vous avez choisi les pays que vous allez visiter?
Alors, c'est large. Ouais.
C'est pas un grand tour. Il y a une carte, en fait, d'ailleurs, sur Ulule, puisqu'on peut financer et participer. On en parlera tout à l'heure, on donnera l'adresse, etc. Participer au financement de ce tour. Il y a la carte, donc ça fait quand même un grand, grand, grand trajet. Et puis, alors, en plus, vous êtes au Maroc le 26 septembre et déjà en Algérie le 27. Puis,
ça va être speed,
donc, du jour au lendemain, vous quittez de vous changer.
Va être vraiment intense. En fait, au départ, Honorien, en fait, c'est la culture orientale. Donc, on s'intéresse aussi à la culture persane, à Israël, vraiment des choses très différentes. Mais pour le projet, on s'est dit qu'on voulait se contraindre d'avoir une pertinence historique. C'est-à-dire que si on va avoir une thématique d'investigation, donc je vais les dire rapidement parce que j'en parle plus tout à l'heure. La première, c'est arabité. La deuxième, l'identité d'arabe aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? La deuxième, c'est comment le numérique a pu catalyser une nouvelle renaissance artistique. Et la troisième, c'est l'espace public et quel est son rapport avec l'art. Et donc, on voulait quand même avoir une approche pertinente. Donc, il fallait qu'on se limite au monde arabe, entre guillemets, même si arabe aujourd'hui, c'est un terme qui est vraiment réinterrogé, c'est vraiment complexe. Et donc, par exemple, on s'est séparé de l'Iran alors qu'on aurait adoré aller en Iran, la Turquie pareil. Donc voilà, c'est des pays arabes, des pays pour quatre d'entre eux francophones, parce que la cité est francophone, qui aussi sont des cibles pour le site, parce que le site est en fait très installé au Maroc-France et on aimerait conquérir un nouveau public. Aussi grâce à ce projet.
Le site Honorient, c'est un site donc un webzine qui est spécialisé dans la culture urbaine arabe, c'est bien ça?
C'est ça.
Et dont les contributeurs peuvent venir de...
Oriental, en fait.
D'accord, oriental. Mmh. Dont les contributeurs ne sortent pas forcément d'école de journalisme, mais sont des personnes qui sont intéressées par la culture urbaine arabe. Comment on devient contributeur, rédacteur pour ce site-là, pour Honorient?
En fait, c'est vraiment ouvert. C'est un site bénévole et toute personne qui est intéressée, qui a peut-être quelque chose à apporter en plus au site. Enfin, en gros, on est un noyau dur de 6 rédacteurs. Après, des rédacteurs ponctuels, une trentaine. Et on a des Français, des Tunisiens, des Marocains, des Juifs iraniens, vraiment des gens de toutes les origines. Et en général, chacun apporte peut-être un intérêt particulier. Enfin, quelqu'un qui s'intéresse à l'Arménie, il y a un vide dans le site, donc il va pouvoir le combler. Mais c'est vraiment du bouche à oreille. Et n'importe qui peut rejoindre, en fait... dès qu'il a un sens de l'écriture et un intérêt pour cette culture-là.
On lance un appel à nos bénévoles et auditeurs s'ils veulent contribuer
au site.
Ceci est un appel.
À la candidature.
Exactement, en particulier pour ce qui est culture berbère, arménienne. On est preneurs parce que justement, il y a un comble.
Et si on veut partir en vacances avec vous pour Orientaux, on
peut pas. C'est un peu, c'est un peu plus compliqué, on galère nous-mêmes.
Déjà, du coup, on se rend sur le site de la page de crowdfunding. Alors, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. Alors, c'est sur Ulule. Et donc, on peut donner l'adresse.
Oui, bien sûr, vas-y.
www.ulule.com/onorientour. Donc, O-N-O-R-I-E-N-T-O-U-R.
On parlait d'orthographe, notez bien.
Oui, c'est ça.
On mettra l'information en disposition des auditeurs sur le site www.radiocampusparis.org. Il s'agit pour vous de récolter 8 800 €. Vous en êtes pour l'instant à 2000 et quelques, un peu moins de 2000. Oui, un peu moins de 3000, c'est ça. Et quels sont. Pourquoi on aurait. Enfin, est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais convaincre nos auditeurs, leur donner envie de contribuer et de participer à ce projet en le finançant.
Allez, 60 secondes, c'est pas pourquoi.
C'est à toi, chercher, là, c'est... juste si vous en avez marre de voir à la télé toujours les mêmes images d'apocalypse militaire, de violence, et vous avez envie de voir de ce qui se passe dans le monde arabe au-delà de cette image-là, et aussi au-delà peut-être du fantasme orientaliste un peu tété à la menthe et chameau, ce que font les jeunes d'aujourd'hui, aidez-nous, parce qu'on a besoin de financer le matériel. Le plus gros poste budgétaire, c'est le matériel pour avoir des reportages de qualité et pour faire un reportage de tout le voyage aussi. C'est sur Ulule et aidez-nous.
Et peut-être que, avec un peu de chance, vous les entendrez même sur Radio Campus Paris si le projet se met en place. Ça, on va le savoir un peu plus tard à la rentrée. On va écouter un morceau de musique que tu m'as envoyé tout à l'heure, Ajar, de Mashrou Layla, c'est ça. Qui s'appelle Lil Watan. Est-ce que tu peux m'en parler un tout petit peu?
Alors, Mashrou Layla, c'est un groupe de musique assez rock libanais. Et en fait, il y a 2 ans, c'était un groupe qui n'était pas encore très connu. Et en fait, on s'est intéressé à ce groupe dès le début. Et maintenant, ils ont vraiment conquéri pas mal d'audience. Et c'est de la musique un peu alternative, jeune, fraîche. Voilà.
Eh bien, on l'écoute.
Sympa.
بالمصير نحنا من نسيم منطير ومنرتد على التدمير بس تتشرق بسؤال عن تدهور الأحوال بيسكتوك بشعارات عن كل المؤامرات خوانوك القطيع كل ما طلبت بتغيير الوطن يقاسوك حتى تبيع حرية I'm
Machou Laila avec l'île Watan. Il est 19h32. Vous êtes toujours dans Radio Camping Paris.
Vous écoutez Radio Camping Paris sur le 93.9.
Et nous sommes toujours en compagnie d'Ajar Chokairi qui nous parle de son futur voyage avec Orient Tour. En quelques secondes, là, on est en train de discuter hors antenne de comment vous allez faire finalement pour partir 6 mois alors que vous êtes tous encore étudiants. Tu nous disais que HEC vous permettait de prendre une deuxième année de césure. Comment ça se fait? Comment ça se passe? Est-ce que tous les étudiants ont cet accès-là, cette chance-là de pouvoir quitter à un moment leurs études et faire autre chose pour y revenir?
Non, en fait, HEC nous permet, si on a des projets qui considèrent solides et intéressants, de faire...
Partir à la plage durant 2 ans.
Exactement, voilà, c'est ça.
Constructif.
Si on justifie qu'on a une plaquette, un budget et tout, tout passe. Ouais. Non, je rigole. Non, mais en fait, normalement, on n'a pas le droit de faire une deuxième année de césure, mais si on a un projet qui tient la route, on l'argumente et voilà, ça passe.
Et l'idée, c'est de prendre un peu de recul avant d'arriver sur le monde du travail, c'est de... Vous respirez un peu justement après les études qui sont quand même assez chargées, j'imagine.
Oui, c'est ça. Finalement, c'est de prendre un peu de recul sur nos expériences précédentes, parce qu'on avait une première année de césure juste avant le projet, et c'est aussi peut-être de concrétiser tout ce qu'on a envie de concrétiser avant de se lancer dans la vie active, quoi. Et mine de rien, ça peut aussi être créateur d'un projet professionnel, parce que pour l'instant c'est un site bénévole, mais pourquoi pas transformer en quelque chose de plus grand. Donc c'est ça l'idée, en fait.
Et puis l'associatif, ce genre de projet permet quand même de créer un réseau qui permet ensuite peut-être de trouver un travail, ce qui est quand même plutôt bien. D'ailleurs, simplement sur l'année de césure, en quelques mots, quelques secondes, AnimaFac vient de rendre possible l'année de césure et reconnue par les universités, puisqu'à l'université, c'était encore compliqué de prendre une année de césure. Donc les étudiants, maintenant, grâce à AnimaFac, ont le droit de prendre une année de césure dans leur cursus universitaire sans qu'on leur cause ensuite des ennuis, parce que ça a été un long combat, je crois, pour AnimaFac d'y arriver. Et je pense effectivement que c'est une expérience importante pour les étudiants d'aller faire autre chose, de construire un projet comme celui-ci. Alors, ce projet, d'ailleurs, on va reparler, en Orient Tour, il y a donc cette idée, cette volonté de mettre en avant des artistes issus donc du monde arabe et oriental, et en même temps de participer à cette culture en mettant en place des événements, des workshops, d'essayer de créer aussi des instants, des lieux culturels. Comment vous allez procéder? Est-ce qu'à l'intérieur de votre groupe, vous avez des gens qui sont capables de construire un ce genre de projet, d'événements? Est-ce que vous allez vous asseoir ces événements, ces rencontres sur des choses déjà existantes, préexistantes, par exemple le tissu associatif dans les pays où vous allez aller? Comment ça va se passer?
Alors effectivement, le but, c'est aussi de faire des choses sur place. Donc on a décidé d'organiser des workshops autour du projet et de la thématique dans chacune des capitales qu'on visite. Donc on est encore en train de voir, est-ce que ça va être... potentiellement c'est plutôt les instituts français en fait qu'on va aller voir, et donc le but, c'est de faire participer les gens, parce qu'on l'imagine comme un projet participatif, à alimenter la thématique qu'on aura choisie. Et donc ça, enfin, ce côté événementiel, on l'a déjà mis en place à Paris, parce qu'on a organisé un débat avec des philosophes, des sociologues, des artistes autour des 3 thématiques, afin que le choix de nos lecteurs, donc qui se fait en ligne, soit éclairé justement par ces interventions-là. Donc oui, on espère déjà, capitaliser sur ces premières expériences pour pouvoir développer encore des choses sur place. Ça, c'est pour l'aspect workshop. Et ensuite, au niveau des associations, pareil, on est en relation avec pas mal d'associations artistiques, éducatives, dans chacun des pays. Voilà.
Alban.
Alors, tu en parlais un tout petit peu, tout à l'heure, mais ce qui relie finalement toutes ces associations-là, à part la culture et la musique, on s'en doute, est-ce qu'il y a un point commun justement entre toutes ces associations-là, ces groupes-là? Tu disais tout à l'heure qu'une des thématiques, c'était l'arabité, et tu esquissais aussi l'idée que le mot justement arabe, le mot oriental était un mot savonnette, des mots utilisés dans beaucoup de contextes différents. Est-ce que à travers ce voyage, à travers ces événements, est-ce que quelque part vous espérez un peu aussi trouver des choses qui relient tous ces gens entre eux, des choses qui pourraient faire sens, faire lien?
Et ben, en fait, c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire c'est pas forcément de chercher un lien en soi, mais de partir de ce lien du mot arabe qui existe depuis le panarabisme, depuis les Nasser, tous les gens qui ont essayé de créer, de jouer un peu sur la nostalgie, la domination arabe, pour créer une identité qui est peut-être un peu factice, du coup, parce qu'elle a tendance à nier un peu toute la multiplicité locale, pour voir ce qu'il y a derrière, pour l'interroger, pour voir où est-ce que ça en est finalement, cette identité, bah, la lumière des Berbères, des Kabyles, des Égyptiens coptes, chacun a une culture différente. Et c'est de ça qu'on veut partir pour l'examiner. Et en même temps, peut-être rendre hommage finalement à ce lien arabité au sens culturel et pas politique, parce que tout est politisé, tout est... on vide les choses de leur substance, alors que finalement, ben voilà, ça peut être un lien arabe, ça peut être arabophone, enfin, et pas quelque chose de, voilà, d'identitaire, de crispant, quoi.
Donc on va aller chercher des thématiques et des artistes en fonction de ces thématiques, c'est l'idée. Et donc les gens qui vous suivent peuvent choisir en fait les thématiques. Il y a trois thématiques proposées, donc vous n'allez pas traiter de ces trois thématiques, mais choisir donc en fonction de ces thématiques des artistes. On les rappelle, hein, les thématiques c'est art-identité, qu'est-ce que l'identité arabe aujourd'hui, art numérique, la culture arabe à l'ère numérique, art, espace public, quelle place pour la culture dans les villes arabes, comment on choisit, comment on peut voter, où est-ce qu'on peut participer et choisir une thématique en disant j'aimerais bien en connaître un peu plus là-dessus.
Oui, bien sûr. Alors en fait, tout est sur le site du coup www.tour.honorient.com dans lequel vous retrouverez le podcast, l'émission radio participative qu'on a fait autour des thématiques pour voilà, savoir un peu de quoi il s'agit. Et ensuite, oui, vous pouvez voter en ligne. Et justement, le but du projet, c'est qu'il a un financement participatif parce qu'il est participatif. Justement.
D'accord. Ce qui est très frustrant, c'est qu'on a envie d'en connaître un peu plus sur les trois thématiques.
Oui.
On les cite.
Faudrait que vous repartiez encore l'année prochaine et faire quelques années de recherche, parce qu'effectivement, je pense que les trois thématiques méritent l'argent.
Oui, c'est ça, on a vraiment, mais moi, c'est dur de se contraindre justement à choisir une, parce qu'elles sont toutes hyper riches finalement,
c'est
ce sera pour d'autres éditions.
Vous laissez le choix aux autres, comme ça vous n'êtes pas
exactement, on n'arrive pas. On a tous notre avis, on aimerait bien en pousser une ou l'autre, mais
c'est jusqu'au 31 juillet qu'on peut voter. Est-ce que tu peux nous donner un exclu, laquelle est en premier pour l'instant? Est-ce que tu as.
Alors, pour l'instant, c'est coude à coude arabité et espace public. Donc, la première et la troisième. Donc, numérique, apparemment, n'a pas ce sujet.
Voilà. Un vote numérique, mais ça n'intéresse pas.
Ouais, exactement, c'est l'outil, c'est tout. Et je pense qu'il y a un léger. En ce moment, il y a un léger. L'arabité est légèrement devant. Donc, à vous de.
Si jamais vous voulez rétablir, rééquilibrer, vous pouvez y aller. Il y a cette volonté dans votre projet Honorient Tour d'être là quand ça se passe. On le voit plusieurs fois sur le site, de dire ça avance très vite, c'est mouvant, la culture elle est mouvante, tout avance très vite et on n'est peut-être pas forcément là pour accompagner ce mouvement, en tout cas comprendre ce qui s'y passe réellement. Donc il y a cette volonté d'essayer de plonger à l'intérieur de l'histoire en fait en train de se faire. C'est quelque chose qui est frustrant quand on est issu de l'immigration, qu'on ne vit pas du tout dans le pays, mais qu'en même temps on a encore des racines, qu'on a envie d'en savoir un peu plus, mais on vit en France, à Paris, et on est loin, donc on ne sait pas trop bien. C'est quoi ? C'est un peu cette frustration et cette envie de plonger plus dedans, d'être plus proche de la culture dans laquelle on a été éduqué.
C'est un peu ça, c'est qu'on est un peu, comme on est tous d'origine marocaine, algérienne, etc., mais qu'on vit en France, on vit un peu dans un déracinement chronique, c'est-à-dire qu'on a quitté notre pays, on continue d'avoir des liens, mais en même temps on est ailleurs. Et en même temps, moi je dirais pas que c'est une volonté vraiment de revenir et de s'installer, mais c'est l'aller-retour en fait qui nous plaît, c'est-à-dire qu'on a envie de se ressourcer pour après avoir des choses à raconter ici, d'être ambassadeur de cette culture finalement qui n'est pas si connue que ça, enfin, cette culture alternative qui a besoin d'être montrée.
Ou en tout cas qui aujourd'hui est un peu mal représentée dans les médias, dans la presse, dans les torchons dont on parlait tout à l'heure, où on a un peu, c'est ce que vous dites, l'idée de lutter un peu contre une mauvaise image de ce mot en plus arabe qui peut faire peur à plein de gens. Dans le petit projet, il y a le déclic face à des extrémismes destructeurs et des amalgames réducteurs. L'Orient Tour cherche à orienter les projecteurs sur les forces vives qui construisent le renouveau culturel du Maghreb. Donc c'est effectivement d'essayer de sortir un peu de ce marasme ambiant un peu dégueulasse avec des choses débiles qu'on entend sur une culture qui mérite pas tout ça, évidemment. Et donc du coup, d'essayer d'en montrer que il n'y a pas à avoir peur et qu'il se passe des choses très très bien culturellement parlant et d'ailleurs... politiquement parlant aussi, mais la volonté c'est de mettre en lumière cet espace culturel d'un espace qui n'est pas réellement un espace géographique, ni historique, ni on ne sait pas très bien.
C'est pour ça, en fait, Honorient finalement c'est quid de l'Orient, c'est-à-dire c'est pas un espace géographique, c'est interroger les limites psychiques finalement de cette c'est pas une zone, de cette notion, de ce concept, et c'est pas Orient versus Occident, c'est vraiment quid de l'Orient, c'est qu'est-ce que c'est l'orientalisme, qu'est-ce que c'est, tout ce qui concerne ce concept. Et effectivement, comme tu disais, on a l'impression aujourd'hui qu'en fait, on nous montre les gens qui cherchent à détruire le monde arabe, mais on ne montre que. Donc, du coup, paradoxalement, on se représente ce monde-là par ceux qui cherchent à le détruire. Donc, c'est ça qui est un peu frustrant, c'est qu'on a envie de voir justement ceux qui le reconstruisent. Et il y a par exemple Alarcisse qui a fait quelque chose de très beau en série, dont on avait parlé dans le site, c'est qu'il a pris en fait, donc en série, la série est à feu à sang, on n'a pas besoin de le redire. Il a pris en fait les débris en fait des bâtiments, il les a colorés, il en a fait une mosaïque. Et ce qui est beau, bah, c'est Nietzsche, hein, finalement, c'est cette création destructrice cette destruction créatrice, qui justement naît par le biais de l'art en fait.
Qui est donc importante évidemment et qu'il faut absolument remettre en avant. Eh bien merci beaucoup Aja. Tu restes avec
nous. Merci à vous.
On va écouter un autre morceau de Apo and the Apostles, ça, Baji Venek. On l'écoute tout de suite, il est 19h43 sur Radio Campus Paris. Apostles, Baji Venek, 19h47 sur Radio Campus Paris.
Radio Camping Paris. du lundi au jeudi, cet été, de 19h à 20h.
Ajar, est-ce que tu voudrais dire quelques mots sur ce groupe qu'on vient d'entendre ?
Oui, alors Aponé Apostel, c'est un groupe palestinien qui a fait son premier concert à Paris, et c'était son premier concert en Europe il y a un mois au festival Pèlerinage en décalage. Et donc c'est un groupe multiculturel, il y a un Canadien, un Palestinien d'origine arménienne et des Palestiniens de Bethléem, et ils chantent un peu en toutes les langues, ils sont vraiment... il veut montrer un visage de la Palestine qui est pluriel et qui est très positif, donc voilà.
Bien, merci beaucoup pour ce choix. On continuera tout à l'heure. On a un autre morceau que tu nous as proposé. En attendant, on écoute Guillaume qui va faire un tour du côté de l'éthique des hommes.
Bonsoir. Salut
Guillaume.
Bonsoir,
Guillaume.
Tout à fait. Je vous propose ce soir une chronique un petit peu particulière puisque j'ai décidé de ne parler que d'hommes alors qu'il y a quasiment parité dans le studio.
Pour une fois.
Quand je dis homme, je veux dire mâle blanc. Oui, depuis l'arrivée de Maxime. Je veux dire mâle blanc ayant défrayé la chronique ces derniers jours. La chronique des opprimés démarre maintenant. Et on commence tout de suite avec un top 3, le top 3 des hommes blancs les plus éthiques du week-end. En troisième et dernière position, on démarre tout de suite avec un chroniqueur de France Inter dont j'ignorais l'existence avant qu'il ne se lâche contre sa direction dans les médias. Il s'est viré de l'antenne comme un malpropre parce que pas assez bien pensant selon ses propres mots. Oh. Je veux bien sûr parler de monsieur François Rollin. Donc apparemment, il était à l'antenne une fois par semaine dans la matinale de France Inter. Il réaliserait presque l'exploit de rendre Patrick Cohen et Mathieu Gallet sympathiques. À l'inverse de mon excrément de ce dimanche, François Rollin n'a laissé aucune trace. Aucun souvenir, aucun sourire, aucun rire. Il se plaint parce qu'on l'aurait viré au motif qu'il était une sorte de François Morel mais en nul. Mais c'est en réalité plutôt un compliment qu'on lui fait en osant accoler le nom de l'ancien des chiens aux chiens. Aux chiens, aux chiens, des siens aux siens. Excusez-moi. François Rollin n'arriverait même pas à faire sourire Cyril Hanouna sous protoxyde d'azote. En plus, tu es né à Dunkerque, alors casse-toi. Voilà, en deuxième position...
Quoi, Dunkerque, enfin, c'est un scandale. Le nom, c'est très bien.
Mais ce n'est même pas en Belgique, Dunkerque. Arrêtez de défendre, mon cher Alban.
C'est dans le Nord,
c'est presque pareil.
C'est à la frontière. En deuxième position, un habitué du hit parade de l'éthique, un homme qui a marié la publicité avec la communication politique pour le meilleur et surtout pour le pire, le bienheureux, Jacques Séguéla. Il s'est distingué par ses déclarations une fois de plus clairvoyantes. Dans l'épisode précédent de 2009, Jacques le pubard avait discouru sur la nécessité absolue de posséder une Rolex une fois passé la cinquantaine. En plein rétropédalage, 6 ans après, dans une interview au Point, alors qu'il y avait prescription pour sa déclaration, il a admis avoir dit une connerie et précise sa pensée lumineuse. Ça voulait dire que la vie est un rêve, qu'il faut rêver de tout. La Rolex est un symbole comme un autre. Et j'aurais pu dire une Ferrari, un stylo bic, peu importe, un objet culte dont on a envie.
Oh, c'est beau.
C'est vrai qu'entre une Ferrari et un stylo bic, le choix est vite fait. Il est beaucoup plus facile de se garer en stylo bic que d'écrire une chronique avec de l'huile de moteur. D'une bagnole de Jacquemout. Pour les non-initiés, le Jacquemout, comme Jacques Séguéla, c'est une espèce en voie d'extinction, habitant de la région centre ou Picardie et appréciant de faire des concours de tuning de bâtard avec les poteaux.
Voilà.
Mais comme un gros Jacquemout qu'il est, Jacques Séguéla n'a pas pu s'empêcher de déraper à nouveau dans le virage de la rédemption merdiatique. Il n'y a pas de raison de dire aux gens vous êtes condamnés à ne jamais vous faire plaisir de votre vie. On a quand même le droit, a-t-il déclaré, même si on est clochard, on peut arriver à mettre de côté 1500 euros. Eh bien, en tant que jeune crève la dalle, Séguéla, tu me fascines. Je ne suis pas clochard et j'ai réussi une fois à mettre 15 euros de côté en 2009, au moment où tu avais fait ta déclaration pour acheter une Rolex, peut-être en 2015. J'ai lamentablement échoué. Donc Jacques, tu es censé être un expert en communication, mais tu es encore plus déconnecté de la réalité que Gisèle, 98 ans, résidant en Lozère, veuve sans enfant qui a cessé de s'informer quand l'ORTF a annoncé la signature des accords d'Évian. Bordel,
Gisèle,
Jacques, pour dire ça, t'en as vraiment trop pris. Arrête de te croire influent et pertinent, tu seras plus à ta place à veiller sur Gisèle qu'à tenter de choper des petites journalistes stagiaires. La pauvre, elle a dû se continuer une heure d'entretien en face à face avec toi. Tu te crois Don Draper, mais tu n'es qu'un zombie de Walking Dead. Enfin,
oh, dur aujourd'hui.
Notre vainqueur du jour est John Sewell, un lord anglais. Number one. Mr. Lord, yeah. Vous savez, les lords, ce sont des Anglais qui vivent dans des cottages et siègent dans une assemblée héréditaire à vie, un peu comme des sénateurs, mais avec la durée de vie d'un Michel Drucker sans OGM. Donc,
cool.
Vice-président de la Chambre des Lords, John Sewell y préside la commission de l'immunité et de la tenue. Et à 69 ans, âge pour le moins érotique, John, ce petit coquin, a fait la une du Sun dimanche dernier, barré du subtil titre du subtil titre Lord Cook. En effet, notre Lord a droit à une photo de lui sniffant via un billet de 5 livres sterling roulé, une poudre blanche présentée comme de la C sur la poitrine d'une prostituée dans son appartement de fonction. Un véritable gauchiste
voilà,
libertaire issu du parti travailliste, la gauche, monsieur. Le pauvre Choupinou s'est plaint de la modicité de son indemnité parlementaire, seulement 200 livres par jour. Il aurait également déclaré, pour concourir au titre de l'homme le plus classe du monde, les femmes asiatiques ont l'air innocentes, mais ce sont des putes.
C'est tout en voilà,
c'est donc c'est vraiment un très beau gagnant de notre top 1 de l'éthique. On applaudit John Sewell. Bravo.
Merci beaucoup. D'ailleurs, peut-être que Loïc est en train de faire la même chose à Amsterdam, puisqu'on n'arrive pas à le joindre. Il raccroche au nez de notre cher réalisateur Antoine.
On peut recréer.
Excusez-moi, je suis en soirée avec un lord.
Peut-être qu'il est en train de sniffer aussi. De la...
Amsterdam,
non, c'est pas
jamais,
bien. L'alcool est mal, c'est dangereux pour l'alcool. La drogue, c'est dangereux. L'alcool aussi, d'ailleurs. Et les putes aussi, tout ça, c'est très mal. C'est dangereux pour la santé.
Et la radio, écoutez la radio, les amis. Ça va tout oublier aussi.
Oui, c'est dangereux pour la santé.
Les oreilles.
T'avais envie de crier Alban encore un peu ?
Non ? Bon, comme si je suis tout seul.
Allez, un hurlement primaire. Jean-Marie Bigard sort de ce corps.
Merci beaucoup, ça suffira.
Voilà.
Eh bien, on va écouter un dernier morceau que nous a choisi Ajar, Bachar Markalif, Mirror Moon. Ajar, tu as quelques mots à en dire ?
Oui, c'est un chanteur libanais, fils qui est issu d'une famille de musiciens. Et qui joue pas mal avec les percussions pour faire des morceaux un peu originaux. Il chante en plusieurs langues aussi. On l'a rencontré il y a un an avec Honorian. Et c'est justement cette rencontre qui a fait que, avec Rita, on s'est mis dans le projet en fait.
D'accord. Est-ce que lui aussi a pu économiser 1500 euros pour s'acheter une Rolex ?
Je suis pas sûre.
C'est bien dommage.
Ouais, c'est dommage.
Bon, on l'écoute tout de suite.
خبى القمر طليت الحلواي فتحت البرداي يا غيم اللي جاي وينو القمر قالت لها الحكاية أسرار مخباي 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 أنوار القمر رجعت الحلواي وبقلبها الحكاية
Bachar Markalif, Mirror Moon, il est 19h56 et vous êtes toujours sur Radio Camping Paris.
Radio Camping Paris.
On accueille Maxime pour la fiction Vol 939, épisode 14. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, Maxime ?
Eh bien, aujourd'hui, épisode 14, il va se passer... Vous allez écouter ce qui va se passer. Sachant que précédemment, une colonie de vacances qui chantait antisociale est rentrée dans le cockpit. Nous retrouvons maintenant le commandant et le copilote, toujours dans le cockpit.
Vol 939, à tour de contrôle, nous sommes prêts.
Non, déjà ?
Oui, oh, ça va, hein.
Bonjour messieurs, bonjour, bonjour, bonjour. Belle journée, n'est-ce pas?
Mais quoi encore?
C'est qui vous?
Alors je me présente. Bonjour, Bernard Brichon des établissements Fargeix. Je viens vous présenter notre toute nouvelle lessive Rapid Tâche.
C'est une blague?
Mais pas du tout. Je suis sûr que dans votre métier, par exemple, messieurs, hein, vous ne prenez pas le temps de manger posément, me trompais-je?
Non, bah, c'est vrai qu'on est sur des rythmes un peu soutenus.
On s'en cogne et vous sortez de là.
Et dans cette précipitation, messieurs, il vous arrive sûrement de faire des tâches sur vos beaux costumes.
Qu'il dites-vous hein?
C'est ta mère la tâche dehors.
Eh bien, en attendant le pressing, messieurs, nous avons une solution. Avec Rapid Tâche, vous pouvez laver votre linge en un clin d'œil. Démonstration.
Oh non, quelle maladroite je fais.
Que t'arrive-t-il, Jacqueline?
Eh bien, je viens malencontreusement d'ouvrir cette bouteille contenant de l'huile de vidange et la renverser sur mon chemisier.
Oh, c'est vraiment pas de chance.
Oui, d'autant que mon mari reçoit d'importants clients à dîner ce soir et que tous mes autres chemisiers sont au sale. Oh, quel souci.
Oh, la pauvre femme.
Débile.
Mais enfin, Jacqueline, tu connais pas Rapid Tâche?
Non, qu'est-ce que c'est?
Il s'agit d'une solution miracle qui vient à bout de toutes les tâches les plus difficiles en un temps record.
Ta-da ! Ah bon ? Sans même le passer à la machine ?
Mais oui, regarde, j'en mets un peu sur ton chemisier et le tour est joué.
Mais c'est incroyable ! Muriel, tu es formidable.
Ah, c'est vrai ? Moi aussi, Jacqueline, je te trouve formidable et je te désire en secret depuis tant d'années.
Hein ?
Quoi ?
C'est dans la pub, ça.
Mesdames.
Chaque nuit, je vois nos corps trempés de sueur se rapprocher l'un de l'autre, tandis que tu me saisirais par les cheveux tout en glissant ta main.
Oui, voilà, merci, mesdames. On a bien compris.
C'est une technique pour enlever les tâches ?
Voilà.
Attendez, ça devenait intéressant.
Mais oublions les tâches, Jacqueline, et je pense à ta bouche sensuelle parcourir.
Oui, on va y aller maintenant.
Attendez, elle parcourt quoi, sa bouche sensuelle ?
On a déjà perdu assez de temps. Et que quelqu'un ferme la porte de cet avion ! Rapid Tâche est-il vraiment efficace ? Les sentiments de Muriel envers Jacqueline sont-ils réciproques ? Vous le saurez dans le prochain épisode de Vol 939.
On a hâte. Demain, le prochain épisode de Vol 939. En tout cas, on remercie Ajar d'avoir bien voulu participer et jouer Muriel. Hein. Le rôle n'était pas évident. Hein. Bravo, Ajar.
C'est drôle, les invités dans cette émission. C'est affreux. Personne ne va venir après.
C'est ça. On les prévient pas. On essaie de leur mentir avant, quand même. Eh bien, merci beaucoup, Ajar, de nous avoir présenté ce projet Orient Tour. Est-ce que tu peux nous rappeler où on peut retrouver où on peut collaborer au financement de ce tour?
Alors tous les liens se trouvent sur www.ulule.com/onorienttour, donc onorienttour.
Merci beaucoup et merci à tous tes autres collègues et camarades qui n'ont pas pu venir, on les embrasse de loin.
Merci pour nous avoir invités.
C'était un plaisir de te recevoir. Et puis on vous retrouve demain dans Radio Camping Paris. Je ne sais pas très bien ce qui va s'y passer, mais il y aura Vol 939, des chroniques de Guillaume, d'Alban et compagnie.
Sûrement des choses intéressantes.
Merci, certainement. Merci à Antoine pour la réalisation de cette émission. On embrasse Loïc qui doit être en train de faire on ne sait pas trop bien quoi à Amsterdam. Certainement qu'il s'amuse beaucoup. Et tout de suite, vous retrouvez les labos de l'histoire sur Radio Campus Paris. Bonne soirée.
Big bisous.
Bisous.
Éteins la télé maintenant.
Il est 20h. Radio Campus.